Ok, alors vous voyez que la façon de le chanter, ces chorales, ça ressemble vaguement à une musique d'église. Et donc, ça, justement, un côté de sacralisation de la musique traditionnelle, c'est le peuple anglais qui se représente comme ça. Je vais vous donner encore un exemple d'une chanson écossaise qu'on va entendre au moins 4 fois dans des versions différentes. Celui-ci, donc c'est Loch Lomond, c'est une chanson d'amour. Et le refrain, c'est... Vous prendrez le chemin de par haut, je prendrai le chemin par en bas et j'arriverai en Écosse avant vous. Ok, essayez de ne pas oublier ce morceau parce que je vais vous le mettre 4 fois en 4 versions différentes au cours de l'après-midi. Et deuxième chose pour vous rappeler quelque chose que j'avais dit la semaine dernière, on va essayer de se détacher de la première réaction. La première réaction, c'est toujours est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il le chante comme ça et pourquoi il y a des gens qui l'aiment. Hein? C'est pas souvent difficile avec la musique, parce que la musique, c'est l'Église disait au 16e siècle, au 14e siècle, il ne faut pas avoir de la musique dans l'Église, parce que la musique, il y a le diable dedans. Mais c'est pas entièrement faux. Hein? On peut rarement s'engueuler aussi bien avec ses amis qu'au sujet de la musique. Ok, j'ai d'autres exemples chantés différemment des chansons traditionnelles. Là, je vous avais parlé de Matty Groves, donc cette histoire du paysan qui passe la nuit avec avec la femme du Seigneur. Venez chez moi et répond « Ah non, 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 je sais qui vous êtes. » Bye. on sent que ça va mal finir. On voit là, bien sûr, ça c'est une version beaucoup plus récente, c'est des années 60, donc on voit que le rock est passé par là, donc il y a beaucoup plus de batterie. Néanmoins, une chanson, on ne sait même pas quand c'était écrit, hein, au 15e ou au 16e siècle sans doute. Hein? Donc une très vieille chanson. On voit l'importance de la voix. Ça c'est le groupe Fairport Convention dont je vais parler tout à l'heure. Et la chanteuse, c'est une des... Il y a trois ou quatre grandes chanteuses de folk depuis 40 ans en Angleterre. Et celle-là, c'est Sandy Denny qui s'en est une. Alors là, on est un peu à mi-chemin là avec le rock et le folk. Hein. Parce que le folk, à la limite, s'il y a une valeur centrale du folk, c'est l'authenticité et les racines dans le peuple. C'est une valeur centrale qui peut être plus ou moins inventée, hein, mais c'est la valeur. Tandis que pour le rock, et vous, on est tous un peu des, même moi, mais on est tous un peu des enfants du rock, parce qu'après le rock, rien n'était plus le même. La valeur centrale, c'est la jeunesse et l'énergie. Alors là, on va voir que c'est un peu la raison pour laquelle écouter des choses avant le rock, c'est pas évident. On est tellement formé à ce que l'énergie soit le centre de la musique que quand on écoute des choses des années 30, on a parfois du mal. Voilà, donc j'en reste là pour l'instant et je continue un petit peu l'histoire. La fin du 19e siècle, 1870 déjà, l'école alimentaire devient obligatoire en Angleterre. 1870, l'école alimentaire est obligatoire. Maintenant, ce sont des écoles un peu primitives, hein. C'est genre un enseignant et 150 élèves, hein. C'est dans la classe, c'est tout apprendre par cœur, c'est même pire que les collèges où vous êtes allés. Et dans ces écoles, au début, il n'y avait pas l'idée d'enseigner la musique du tout. C'est l'idée de l'élite, c'est la musique c'est pour l'élite et les classes populaires, ils n'en ont pas besoin, j'en parlerai tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, il reste un petit peu de cette attitude aujourd'hui en Angleterre comme en France. Hein. Vous voyez qu'on apprend plein de choses à l'école et on n'apprend pas en général à lire la musique. Ça c'est réservé au conservatoire, qui est un endroit où assez intimidant et très classe moyenne pour les gens ordinaires pour s'y rendre. Alors il y a encore des échos un petit peu de cet élitisme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était bien sûr beaucoup plus fort. Par contre, à partir des années 1890, on commence à enseigner dans les écoles les chansons folk. Pas les chansons en général, surtout pas les chansons du music hall, la chanson la plus populaire de l'époque, mais les chansons traditionnelles qui sont vues comme un pur produit du passé, de cette société idéalisée, du village, etc. Et en 1906, un certain monsieur Stamford va produire le livre national des chansons, le livre national des chansons, donc un peu un livre un peu officiel, des chansons à apprendre, et c'est des chansons sur la gloire, et on en chantait encore quand j'étais à l'école. Hein. C'était « Heart of Oaks are our ships, jolly tars are our men » sur l'armée navale du 18e siècle. Et des chansons de la guerre contre Napoléon, hein, on en chantait encore. On ne savait pas trop pourquoi, mais on les chantait parce qu'on nous disait de les chanter. Pourquoi ce moment-là? Bon, d'abord, c'est parce qu'il y a l'école, pour la première fois, mais c'est aussi parce que c'est le moment le plus élevé, ou le plus terrible, de notre point de vue, de l'impérialisme britannique. C'est la période où les Britanniques débarquent en Afrique et volent plusieurs pays par ici si jamais les Français ou les Portugais ne sont pas arrivés avant, quoi. C'est vraiment la lutte pour l'Afrique. Et pour la première fois, l'Empire doit être populaire. Un siècle avant, au 18e siècle, l'élite, ça ne les importait pas que l'Empire soit populaire ou non, ça n'avait aucune importance. Mais maintenant, après 1884, beaucoup des gens ordinaires ont le droit de vote. Alors maintenant, si vous voulez poursuivre des guerres impériales, coloniales, ben il faut un certain soutien. Alors il y a un lien entre tout ça et enseigner la chanson populaire assez conservatrice sur la gloire du pays dans les écoles. En dehors des écoles, il y avait d'autres chansons. Il y a aussi une tradition beaucoup plus faible. Hein. L'essentiel des chansons conservés de cette époque sont assez conservateurs. Mais il y a aussi une petite tradition radicale. Il y a des ballades écrites sur les différents grèves du 19e. Et bien sûr, les ballades de Robin des Bois, ça continue. Alors, pour revenir à M. Charles, qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, je me suis un peu mélangé, j'ai un peu mélangé quelque chose là, c'est un peu bizarre. Ok, bon. Pour parler à Sharpe, Sharpe il va systématiser donc la collection de musique folk en Angleterre et il va fonder une organisation en 1911. Il va fonder l'association anglaise de la danse folklorique. Et peu à peu, très rapidement, ça va non, pas très rapidement, mais sur les 20 ans après, ça va devenir l'association anglaise pour la danse et la chanson folklorique. Alors, il va travailler énormément pour aller de village en village et noter les danses traditionnelles. Il y a les danses des épées, il y a les danses les chaussures en bois qu'on met aux pieds. Voilà, les danses des sabots et tout ça, il va les noter. Parce que pour lui, ça vient d'un passé glorieux. Et il va donner énormément de conférences au sujet de la musique folk. Pendant la Première Guerre mondiale, il va aller au Canada pour chercher des chansons traditionnelles qui ont été importées au Canada et qui ont été en fait gardées, selon lui, mieux gardées dans les communautés isolées des montagnes au Canada. Qu'en Angleterre. Et justement, il ne va pas s'intéresser du tout à la musique populaire moderne à l'époque, le musical dont je vais parler plus tard. Pour lui, c'est purement commercial, tandis que la vraie musique authentique, derrière. Je vais vous donner encore un exemple là d'une chanson traditionnelle. D'une des catégories que, bien sûr, il ne faut pas oublier parce que c'est extrêmement important, et c'est la catégorie de chansons pour boire. Donc, ceci, c'est une chanson sur le whisky. Donc, ça c'est un exemple irlandais. C'est assez intéressant. Je vais vous mettre pas mal d'exemples anglais pour une raison, c'est-à-dire que pour une raison que je ne comprends pas. En France, on a l'impression qu'il y a de la musique folk en Irlande et en Écosse et pas en Angleterre. C'est absolument faux. Il y en a partout. Et puisque je suis anglais d'Angleterre, je tiens à défendre un petit peu la musique folklorique anglaise. Donc, utilisation par Sharpe. Des chansons folk, un peu pour des raisons nationalistes, hein, un peu pour un certain patriotisme, etc. Ce choix, comme je disais, qui va perdurer pendant tout le XXe siècle, comment est-ce qu'on les chante? Est-ce qu'on les chante avec une chorale, un peu comme une musique de chambre, c'est-à-dire une culture officielle qui montre la gloire de notre pays? Ou est-ce qu'on les chante guitare sèche, a cappella, accent régional, un peu plus du peuple, de façon plus amateur, exprès, ok? peu plus amateur et fait exprès, pour montrer leur l'élément rustique et populaire. Alors la Première Guerre mondiale va un peu tout changer. En fait, si vous avez étudié un peu l'histoire, vous aurez remarqué que la Première Guerre mondiale, c'est pas un événement comme les autres, c'est le plus grand traumatisme depuis des siècles avant. La Première Guerre totale, et la culture est entièrement traumatisée par ceci. En Angleterre, c'est de la guerre que tout le monde savait allait durer 3 mois. Et personne n'imaginait que ça pouvait être aussi affreux. Et dans le monde de la musique folk, les collectionneurs vont considérer que cette guerre a détruit ce qui restait de la culture populaire et que c'était plus la peine de collectionner des chansons. Ils avaient tous été collectionnés. Maintenant, il suffisait de les faire vivre. C'est un corpus fermé, hein, quelques milliers de chansons que nous avons, et c'était fini. Et ça va être la situation pendant une vingtaine d'années. Il y a un petit peu de collection qui continue, il y a une revue, mais en fait, assez peu de changements. La Deuxième Guerre mondiale va changer les choses. Et l'impulsion pour la prochaine étape va venir, en fait, des États-Unis. Il va y avoir un revival, donc une resurgence de la musique folk aux États-Unis, surtout autour de Woody Guthrie. Donc Woody Guthrie, c'est le grand... je ne sais pas si j'ai pris des Woody Guthrie, je ne crois pas, puisqu'il n'est pas anglais, j'ai pas voulu le mettre. Donc une grande... mouvement radical qui alliait le mouvement radical et le parti communiste et la musique populaire, la musique folk. Ça va arriver en Angleterre, surtout dirigé par un certain Ewan Carr. Je vous ai mis un de ses chansons la semaine dernière, Ewan Carr. Et lui, il va essayer de faire vivre la musique folk comme musique du peuple et contre les élites en Angleterre. Donc il va à la fois chanter et faire chanter des chansons traditionnelles, parfois d'une façon assez stricte. Par exemple, il refuse de permettre dans ses clubs à lui, il refuse de vous permettre de chanter une chanson si ça ne vient pas de votre région. Il dit ce qui est important, c'est les racines. Alors ne vous amusez pas à chanter des chansons écossaises ou américaines si vous venez de Liverpool. Vous devez aller chercher dans votre région les chansons locales et les faire vivre. C'est un côté militantisme comme approche à la musique. Et il va aussi écrire des chansons sur des causes populaires. Et en voici une qu'il faut que j'explique un petit peu. Dans les années 30, un des passe-temps les plus populaires parmi les ouvriers et les chômeurs, c'était la randonnée. D'abord parce que c'était gratuit, hein. Et parce que les gens, ils avaient vraiment très très peu de possibilités de se payer des loisirs. Et il y avait un certain nombre de conflits parce qu'il y avait des propriétaires terriens qui refusaient aux gens les droits un peu traditionnels de traverser le pays. Et il y a à un moment un grand conflit où quelques centaines de personnes décident que voilà, ils vont aller faire la randonnée là où c'est interdit, et ça va devenir une lutte symbolique pour le droit à l'accès à la campagne pour les ouvriers. Suite à cela, c'est en 1936, Ewan McCall va écrire cette chanson qui s'appelle The Manchester Rambler, donc le randonneur de Manchester. Et ici, c'est chanté par quelqu'un d'autre, je n'ai pas trouvé Ewan McCall qui le chantait. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Il parle de son amour de la montagne. Il faut dire qu'en Angleterre, c'est des petites montagnes. Hein. Petites montagnes, mais il y en a des montagnes quand même. Et il va parler de son... quand il était sur une randonnée, il rencontre un gardien de sécurité des propriétaires terriens, en tout cas, et comment il va lui parler, il va gagner. Ça, c'est intéressant parce que Woody Guthrie fait une chanson similaire en américain, « This land is your land », cette terre, ça appartient à vous et ça appartient à moi. Et dans la chanson de Woody Guthrie, il dit « Quand je me baladais sur la route, j'ai vu un panneau et c'était marqué « propriété privée ». Mais de l'autre côté, il n'y avait rien à marquer. Alors bon, l'ironie peut dire qu'on n'a pas suivi les instructions, on est continué, et de l'autre côté, il n'y avait rien marqué. Alors, on était chez nous. La terre est à nous, et donc ici, il y a la chanson The Manchester Rambler. The Manchester Rambler, chanté par quelqu'un. Il faut que je le trouve. Si je ne le trouve pas, j'étais sûr pourtant de l'avoir, le Manchester Rambler. Alors, vous me donnez un instant. Ah, voilà, j'ai trouvé.